Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le claveciniste et pianiste Justin Taylor. Cette interview a été réalisée à distance. Alors Justin, je résume votre parcours. Vous débutez votre apprentissage du piano et du clavecin dans votre belle ville natale d'Angers. En 2011, vous poursuivez vos études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où vous étudiez le clavecin avec Olivier Beaumont et Blandine Ranoux, et le piano avec Roger Muraro. Votre carrière débute avec le premier prix au concours de clavecin de Bruges en 2015, assorti du prix du public, du prix Out Here Alpha Classics et de l'EUBO Development Trust. En 2017, vous êtes nommé aux victoires de la musique classique dans la catégorie Révélation soliste instrumentale et remporté la même année le prix de la révélation musicale décerné par l'Association professionnelle de la critique. Depuis, vous vous produisez au Single d'Anvers, au LSO St. Luke's de Londres, à la Philharmonie de Paris, à l'Auditorium du Louvre, au Festival de la Roque d'Anthéron, à l'Auditorium de Radio France, au Théâtre des Champs-Élysées, mais aussi au Japon et aux États-Unis. Vous jouez également avec les Orchestres Nationaux d'Île-de-Chambre, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre de Chambre de Genève et plus récemment avec le Concerto Köln. Vous avez déjà réalisé plusieurs enregistrements pour lesquels vous avez remporté de nombreux prix, comme le choc de l'année du magazine Classica, l'Editor Choice du magazine Gramophone ou le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Votre album Continuum, consacré à Scarlatti et Ligeti, a été classé parmi les 5 meilleurs enregistrements du journal Le Monde en 2018. Je vous propose de débuter notre entretien avec un extrait de cet album. Il s'agit de la sonate en ré majeur 492 de Scarlatti. Thank you. La sonate en ré majeur 492 de Scarlatti par notre invité Justin Taylor. Alors dites-nous Justin, quels sont les premiers héros musicaux de votre jeunesse ?
Dans mon cas, je dirais qu'en fait c'est ma première professeure de clavecin. C'est vrai, souvent on parle de grands interprètes, d'enregistrements mythiques, mais en fait quand on est petit, enfin en tout cas dans mon cas, mon rapport avec la musique classique, avec le clavecin, ben, c'était avant tout ce cours individuel chaque semaine avec ma professeure Françoise Marmin. Et voilà, c'est vraiment des personnalités qui comptent énormément dans la formation musicale. C'est quelqu'un qui m'a évidemment appris énormément de choses concernant le clavecin, mais je dirais aussi la musique au sens large, la curiosité d'aller écouter des enregistrements, de déchiffrer des partitions, de jouer avec d'autres musiciens. Voilà, cette ouverture d'esprit nécessaire. Donc je pense que voilà, on pourrait dire que c'est mon premier héros musical.
Comment le clavecin s'est imposé à vous ?
Alors, j'ai découvert le clavecin un peu par hasard. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais du piano, que j'aimais énormément ça. Et ma mère était professeure à la fac d'Angers. Et en fait, en l'attendant à une sortie de cours, il y avait dans le hall une présentation du clavecin, de son répertoire, de l'instrument. Je me souviens très bien, le claveciniste, il avait enlevé le chapiteau, donc c'est-à-dire l'endroit où les cordes sont pincées, et il montrait les sautereaux. Et tout ça m'a énormément fasciné. Et une fois que j'avais eu cette rencontre avec l'instrument et cette musique, j'ai eu comme énormément de mal à m'en défaire et ça me trottait dans la tête sans cesse. Et donc à force d'en parler et d'être presque obsédé par le clavecin, je suis donc allé rencontrer la professeure du conservatoire et puis voilà, tout de suite on s'est très bien entendu. Et après voilà, ça a démarré plus de 10 ans d'études du clavecin ensemble.
Alors nous allons vous écouter, je vous propose de poursuivre avec la sonate en si mineur opus 2 numéro 8 d'Arcangelo Corelli par le consort de notre invité Justin Taylor.
Thank you.
La sonate en si mineur, opus 2, numéro 8 d'Arcangelo Corelli, par le consort de notre invité Justin Taylor, un extrait de l'album intitulé Opus 1. Comment vous est venue l'idée de fonder votre propre consort, Justin ?
Comme je vous le disais, en fait, le clavecin à l'époque baroque est un instrument qui a un répertoire soliste considérable, mais qui aussi accompagnait quasiment 90% du répertoire de musique de chambre, que ça soit la sonate en trio, comme on vient d'entendre ici, c'est-à-dire une sonate avec deux violons, basse d'archet et clavecin, ou des œuvres vocales, qu'elles soient assez intimes, comme par exemple des leçons de ténèbres, ou carrément des grandes productions lyriques, on pense aux opéras de Louis de Rameau. En fait, le clavecin était vraiment partout. Et pour moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir cette ouverture dans sa pratique, de pas se cantonner à un répertoire, qu'il soit musique de chambre, orchestrale ou solo. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup brosser tous ces différents répertoires. Et c'est donc assez naturellement qu'après le concours de Bruges, j'ai eu envie de développer mon activité chambriste. Et donc, voilà, le consort, qui est en fait une aventure collective et pas personnelle, a démarré en 2015.
Alors justement, comment avez-vous rencontré ces membres ?
Une des grandes chances qu'on a en étant musicien, c'est qu'on rencontre sans cesse de nouvelles personnes. Et évidemment, les études sont un lieu privilégié pour cela. Et pendant mes 4 années d'études au Conservatoire de Paris, voilà, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui sont devenues des amis, voilà, qui font maintenant aussi partie du consort. Et donc, en fait, cette aventure a surtout démarré d'abord dans les couloirs du conservatoire, puis dans des salles de répétition, et puis maintenant dans des salles de concert.
Avec ce consort, vous accompagnez également la mezzo-soprano Eva Zajic. Comment avez-vous fait sa connaissance ?
Alors, j'ai peur de vous décevoir par manque d'originalité, mais également au Conservatoire de Paris. En fait, on faisait tous les deux une production d'un opéra de Mozart, Mithridate, qui est la production annuelle qui est faite par les élèves du conservatoire. Et donc, moi, j'étais le continuiste. Et donc, en fait, il y a des répétitions assez longues qui durent 3 à 4 semaines, où on a ce moment un peu privilégié avec les chanteurs avant que l'orchestre entier arrive sur le plateau. Et on a vraiment eu beaucoup d'affinités avec Eva. On s'est très bien entendu musicalement, humainement. Et donc, ça nous a donné envie de faire d'autres projets en dehors du conservatoire. Et donc, on a très peu de temps après cette production au conservatoire fait une résidence avec le consort à la Cité de la Voix de Vézelay, qui est une sorte d'incubateur pour jeunes ensembles qui veulent se développer en musique vocale. Et on a enregistré notre premier disque en 2017, Venez chère ombre. Puis on a fait beaucoup de concerts ensemble et toujours avec beaucoup de plaisir. Et là, on vient de sortir donc un deuxième album, Royal Handel, qui est sorti en janvier, qui est consacré à la première Royal Academy à Londres, qui était donc un peu chapeautée par Handel, donc avec beaucoup d'airs de Handel, mais aussi des airs inédits de Ariosti et Bononcini, deux compositeurs italiens que Handel avait invités à Londres.
Alors bien évidemment, nous avons fait la part belle à ce Royal Handel dans une émission précédente consacrée à l'actualité musicale. Mais cette fois-ci, je vous propose d'écouter ensemble 12 tranquillités tirées de la cantate à voix seule, Le dépit généreux de Michel Pignolet de Monteclerc. Eva Zajic est entourée du consort de Justin Taylor. No! La mezzo-soprano Eva Zajcik, entourée du consort de Justin Taylor, interprétait « Douce tranquillité » tirée de la cantate à voix seule « Le dépit généreux » de Michel Pignolet de Montéclair, un extrait de l'album « Venez chère ombre » paru chez Alpha Classics. Je vous propose d'enchaîner directement avec la Forqueraie tirée de la première suite en ré mineur de Jean-Baptiste Forqueraie. Notre invité, Justin Taylor, est au clavecin. La Forqueraie, tirée de la première suite en ré mineur de Jean-Baptiste Forqueraie. Il s'agit d'un extrait de l'album La famille Forqueraie de notre invité Justin Taylor. Justin, qui étaient les Forqueraie ?
Les Forqueraie étaient une grande famille de violistes au XVIIe et XVIIIe siècle. On peut même presque parler d'une dynastie. Il y a vraiment plusieurs générations de Forqueraie extrêmement douées à la viole. Antoine, le père, a joué à l'âge de 10 ans devant Louis XIV, donc vous vous rendez compte de cette précocité. Et est devenu rapidement un musicien très en vue en France à cette époque. Il était donc musicien à la chambre du roi et était voilà, vraiment courtisé de toutes parts. Il a eu un fils, Jean-Baptiste, qui lui aussi était vraiment assez génial et précocement doué. Et lui a joué à 5 ans devant le roi. Donc voilà, il y a une sorte de compétition entre le père et le fils. Compétition qui a un peu mal tourné et qui s'est transformé en orage de jalousie presque, sachant que Antoine, donc le père, a fait enfermer son fils, emprisonné carrément, pour en fait cacher son talent aux yeux du monde et garder lui le dessus sur sur ce génie de la viole. Et donc voilà, une histoire qui a assez mal tourné. Ensuite, Jean-Baptiste, le fils, a réussi à se faire libérer par des amis influents. mais son père l'a fait bannir de France. Enfin voilà, une histoire assez incroyable et passionnée. Finalement, Jean-Baptiste a pu revenir en France, on n'entend plus trop parler de lui. Son père meurt en 1745. Et là, 2 ans après, Jean-Baptiste va publier un recueil de 5 suites dont est extraite la pièce que vous venez de diffuser. Et il les publie en disant « Voici les pièces de mon père ». Alors ça rajoute encore une énigme à cette histoire assez difficile à cerner. Pourquoi il aurait publié les pièces de son père alors qu'il y a eu toute cette histoire pas très sympathique? Son père, qui de son vivant était extrêmement influent, aurait très bien pu les publier lui-même. Alors là, il y a énormément d'hypothèses dessus. Moi, je pense qu'une partie de la musique a pu être un peu imaginée par le père, mais que c'est Jean-Baptiste, le fils, qui l'a tellement remanié, tellement retravaillé, qu'on peut considérer que c'est sa musique. J'aime énormément cette musique parce que ce sont des pièces incroyablement contrastées. Alors, on dit souvent que la musique est contrastée, mais là, vraiment, c'est assez exceptionnel. Il y a des pièces qui dépeignent des orages furieux, rythmiques, quasiment électriques dans le clavecin, et des pièces comme La Silva, par exemple, qui est une de mes pièces favorites, complètement abandonnée, voilà, où toute notion de temps disparaît presque. Donc voilà, c'est une musique qui me touche énormément et qui était donc l'objet de mon premier disque paru en 2016.
Alors, les programmes de vos albums frappent par leur cohérence et leur originalité. Comment les concevez-vous ?
Alors, le point de départ, c'est toujours un compositeur ou un répertoire précis. Donc là, on vient de parler des Forquerets, et puis pour continuer sur le dernier album qui vient tout juste de sortir, c'était Rameau. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de replacer ces compositeurs, ces œuvres, dans le contexte de l'époque. Alors j'essaye de regarder évidemment toute la musique déjà que eux-mêmes ont écrite. Déjà, ça, en général, ça donne une très bonne base. Et ensuite, j'essaye de regarder un peu autour. Alors justement, là, pour les Forquerets et les Rameau, c'était l'environnement familial qui m'a intéressé. Mais pour Scarlatti, par exemple, qui est un autre album que j'ai fait en 2018, je me suis dit comment cette musique incroyablement moderne pour l'époque peut avoir une résonance aujourd'hui. Et donc, j'ai fait un peu un bond vers du répertoire beaucoup plus proche de nous, avec 3 pièces de Ligeti qui ont été écrites entre 1960 et 1970. En tant que jeune artiste aimant la musique baroque, je trouve une de nos missions presque, c'est justement de concevoir ces programmes de disques originaux. Il y a une énorme discographie qui a été faite par les générations qui nous ont précédés et qui ont complètement participé à l'essor de la musique baroque. Je pense par exemple alors au tout début du XXe, à Wanda Landowska qui a fait redécouvrir le clavecin, Gustav Leonhardt, Scott Ross, et puis voilà, il y a comme ça des passations entre les générations. Et aujourd'hui, je trouve que nous, qui avons démarré la musique baroque très jeune, justement, on a peut-être cette liberté de concevoir ces programmes qui présentent vraiment cette musique dans leur contexte d'une manière un peu originale et qui, j'espère, éclaire ces œuvres et nous aide à les apprécier aujourd'hui.
Vous aimez dénicher des œuvres rares ?
Tout à fait, j'aime énormément trouver de nouvelles pièces inédites, inconnues et qui, j'espère, méritent d'être redécouvertes. On a aujourd'hui la chance avec l'informatique d'avoir accès à une source d'information quasiment illimitée et un accès à énormément de bibliothèques dans le monde qui ont souvent numérisé une très grande partie de leurs fonds. Donc les recherches sont vraiment facilitées et on peut comme ça tâtonner de manière assez virtuose, je dirais presque sur le clavier de l'ordinateur. Par exemple, là, pour la famille Rameau, j'ai trouvé sur le site de la BNF française, la Bibliothèque nationale de France, leur site Gallica, où ils ont numérisé une très grande partie de leurs fonds, les sonates de Lazare Rameau, la suite de son fils, Claude-François Rameau. Et alors, pour la pièce de Claude Rameau, là, elle n'était pas numérisée, donc je suis allé à la Bibliothèque nationale de France. Mais c'est vrai que voilà, cet appétit pour les œuvres inédites, pour moi, est très important. Et justement, je vous parlais des générations précédentes. Pour moi, on doit aussi perpétuer cet appétit de la découverte, de la recherche des œuvres inédites qu'ils ont eues et qu'on peut toujours avoir, car il y a encore beaucoup d'œuvres à découvrir. Pour revenir au consort et avec Eva Zajcik, sur notre premier album « Venez, chère ombre », il y a un compositeur, Lefebvre, dont personne n'avait jamais entendu parler et qui a écrit une vingtaine de cantates pour lesquelles on a eu un vrai coup de cœur. Et donc voilà, c'était une redécouverte complète et je pense quelque part utile. Et en tout cas, nous, on était voilà, évidemment très heureux de rejouer cette musique aussi longtemps après qu'elle ait résonné. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de mêler des œuvres un peu connues, comme un espèce de jalon qui vont rassurer les personnes et puis qui leur donnent des repères, parce que Rameau, les mélomanes situent où c'est, Forqueray aussi, Scarlatti, et puis dans cette espèce de presse de confort et d'attente qu'on a sur un répertoire, surprendre par une association étonnante comme Ligeti ou par des œuvres justement inédites que personne n'a encore jamais entendues.
Alors, comme vous l'avez juste évoqué, vous venez de publier un nouvel album passionnant dédié à une autre tribu musicale, les Rameau. Alors, si Jean-Philippe Rameau est célèbre, peu connaissent Jean-François Taperet ou Claude et Lazare Rameau. Alors, qui étaient ces personnages?
Alors, le fils aîné de Rameau est Marie-Louise Mangot, donc son épouse qui était aussi musicienne, chanteuse. S'appelait donc Claude-François Rameau, donc, et lui a écrit une suite pour clavecin, dont j'ai extrait la Forqueray. Pour revenir au Forqueray, donc une pièce hommage. Donc il y a Jean-François Rameau, que tout le monde connaît, son fils Claude-François. Jean-François a un frère qui s'appelle Claude, qui lui aussi sera musicien. Ils ont appris la musique ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, il y a une anecdote qui dit qu'en fait, les deux frères savaient lire la musique avant de lire les lettres de l'alphabet. Donc voilà, aussi deux musiciens très, très précoces. Et donc Claude, le frère de Jean-Philippe, va avoir deux enfants. Jean-François Rameau, alors qui lui ne sera pas musicien, mais qui est un peu connu aujourd'hui sous le nom de neveu de Rameau, parce qu'en fait Diderot, dans son pamphlet, parle de Jean-François Rameau. Et Lazare Rameau, donc un autre neveu de Rameau, mais cette fois-ci musicien, qui a écrit trois sonates juste à l'aube de la Révolution française en 1788. Donc voilà, donc il y a cette famille Rameau, et puis j'ai voulu aussi étoffer le disque par ce que j'appelais des hommages, parce qu'en fait évidemment Rameau s'est très vite imposé comme une figure incontournable de son temps, et puis même après il a laissé une marque dans l'histoire de la musique indélébile. Et donc un des hommages de son temps, c'était donc Jean-François Taperet, qui était un compositeur pas très connu à l'époque, mais intéressant, et qui s'est emparé des Sauvages. Donc la danse des Sauvages qui est assez connue aujourd'hui et qui était déjà un tube à l'époque. Voilà une pièce entêtante avec un rythme endiablé. Et donc Jean-François Taperet, on a fait des variations. Il a d'abord repris le thème de Rameau et puis il a fait une série de quatre variations assez virtuoses pour clavecin, une pièce que j'aime beaucoup. Et puis l'autre hommage, c'est Claude Debussy qui a écrit une pièce qui s'appelle, entre guillemets, tout simplement « Hommage à Rameau » en 1905, où il va essayer, je trouve, de retrouver cette poésie de la résonance, des harmonies étonnantes. Et je trouvais ça très intéressant de montrer voilà, justement à quel point l'inventivité et le génie de Rameau a eu des répercussions non seulement à son époque, mais jusqu'à aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qui vous fascine dans ces familles musicales comme les Forqueray ou les Rameau ?
Alors j'ai pas une fascination pour la famille en tant que telle. Donc, comme je vous disais, c'est surtout le contexte qui m'intéresse. Et aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais à l'époque, tous les métiers, et pas que celui de compositeur, mais ça prenait en famille. Voilà, on était compositeur de père en fils, menuisier de père en fils. Et donc voilà, en fait, la cellule familiale pour le métier avait un rôle très important. C'est pour ça qu'on a presque des dynasties de compositeurs. Alors, on connaît les Bach, les Mozart, voilà, Mozart voyageant avec son père. Mais même Vivaldi, par exemple, avait un père violoniste. Les Forqueray, Scarlatti, son père était également très grand compositeur napolitain. En fait, beaucoup de très grands compositeurs ont évolué dans une famille musicienne. Et donc, c'est ça qui m'intéresse justement de voir ces différentes influences qui peuvent avoir de par l'éducation. Est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont musiciens? Où est-ce que la famille a voyagé? Dans le cas de Rameau, il est allé en Italie, donc c'est évidemment comme très important pour son inspiration, son bagage culturel. Ensuite, lui, il a un peu bourlingué dans le sud de la France. Il était violoniste, organiste, claveciniste. Voilà, c'est un compositeur qui a publié ses premières pièces assez tard, mais justement parce qu'elles étaient sûrement le fruit de tout ce bagage qu'il a accumulé dans sa famille, dans ses voyages, dans ses rencontres. Donc en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse dans la famille, c'est de replacer le compositeur dans son contexte.
Alors vous avez enregistré ce dernier album Rameau dans un endroit mythique et sur un instrument légendaire. Qu'avez-vous ressenti dans ce lieu et avec cet instrument ?
En effet, c'est un endroit assez exceptionnel. Donc j'ai eu la chance d'enregistrer au château d'Assas, qui est tout près de Montpellier, dans le sud de la France, qui est un château 18e absolument magnifique, je dirais de manière pas du tout péjorative, dans son jus, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance assez inénarrable là-bas. Et surtout, il abrite un clavecin extraordinaire qu'on appelle le clavecin du château d'Assas, qui est un clavecin de facture lyonnaise des années 1730 et qui a un son complètement envoûtant, je dirais. Je me rappelle très très bien de ma première rencontre avec lui. Pour moi, c'est un des clavecins français historiques les mieux conservés que je connaisse. Et donc voilà, donc j'ai fait cet enregistrement là-bas et c'était assez étonnant parce que c'est un clavecin qui a une très forte personnalité. Donc par exemple, il y avait des registrations, des nuances, des caractères, des tempi que j'avais prévus. Et puis en arrivant sur place et en commençant à enregistrer, ben en fait le clavecin m'a dit en gros bah non moi ça marche pas comme ça. Et donc il y a cette adaptation que j'ai dû faire, mais qui était justement passionnante parce que c'est, il y a presque un dialogue qui s'installe entre le musicien et l'instrument, tant l'instrument est merveilleux. Donc voilà, ça m'a beaucoup appris et c'était une rencontre musicale presque très intéressante. Et puis pour revenir sur le lieu, c'est vrai que c'est un lieu assez mythique aussi parce que le claveciniste Scott Ross a beaucoup contribué à le faire connaître parce qu'il a eu lui aussi visiblement un énorme coup de cœur pour ce clavecin. Il a habité sur place plusieurs années et voilà, ça a vraiment participé aussi à sa carrière et à faire découvrir le clavecin. Donc voilà, c'est un lieu chargé d'histoire qui abrite ce clavecin dont je me souviens encore voilà, aujourd'hui comme si c'était hier.
Alors nous allons écouter ce clavecin dans le thème et variation des Sauvages de Jean-François Taperet. Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Le thème et variation des Sauvages de Jean-François Taperet sur un thème de Jean-Philippe Rameau par Justin Taylor. Il s'agit d'un extrait de l'album La Famille Rameau qui vient de paraître chez Alpha Classics. Alors Justin, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter ?
Alors j'espère que vous n'êtes pas trop lassé de ces Sauvages que moi je, personnellement j'adore. Et voilà, justement, j'ai pas pu m'empêcher de poursuivre encore avec les Sauvages, mais cette fois-ci dans une version orchestrale. Parce qu'en fait, Rameau a d'abord écrit les Sauvages pour clavecin seul. Et puis ça a eu un tel succès qu'il en a fait cette version orchestrée dans les Indes Galantes. Et je vous propose de l'écouter par les Arts Florissants de William Christie. Voilà, quand je parlais des générations qui nous ont précédés et qui ont contribué énormément à l'essor de la musique baroque et à la connaissance de ce répertoire, on pense évidemment en tout premier lieu à William Christie et à son orchestre. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a contribué à faire redécouvrir complètement, à ressortir de l'ombre les opéras de Rameau, de Lully, toute cette musique française qu'il affectionne particulièrement. Et voilà, en tant que jeune musicien adorant la musique française, quelque part, on est tous un peu son héritier aujourd'hui. Donc voilà, pour terminer cette émission, Les Sauvages de Jean-Philippe Rameau par Les Arts Florissants de William Christie.
C'était donc « Danse du grand calumet de la paix » suivi de « Forêt paisible » tirée des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau dans l'enregistrement « Des arts florissants » de William Christie. Il s'agissait du choix de notre invité, Justin Taylor. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Justin Taylor d'avoir accepté notre invitation. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.